Entre deux volumes, Fabrice continuait d'avoir besoin de changer d'air. Après les berges de la Seine, il serait bien allé à Venise, d'autant que c'est un des lieux où se passe la fugitive. Mais c'était prévu qu'il l'y interprétât. Il choisit donc une autre villégiature, importante, elle aussi, dans l'œuvre qui était à son programme de juin. Il trouvait dans la douce France de fin de printemps des attraits reposants. Il se retira donc en Touraine. Il ne s'agissait toujours pas pour lui de réviser, même s'il ne se séparait jamais du volume à venir. C'était même plutôt pour faire le vide avant de replonger. De la région, Proust ne dit pas grand-chose, sinon que c'est à Châtellerault qu'il faut descendre pour aller chez la tante chez qui Albertine a choisi de résider. La cité se situe d'ailleurs dans le Poitou, à la limite de la Touraine. Le nom n'était pas inconnu des familiers de la recherche, porté par un jeune duc de la famille de Guermantes. Anecdote, superficialité. Les ingrédients chers à Fabrice étaient à nouveau au rendez-vous. Tôt le matin du 25 mai, Fabrice prit donc à la gare Montparnasse le seul TGV direct pour Châtellerault, qu'il atteignit 1 heure et demie plus tard. Là, il s'enquit d'un taxi pour le mener à Azay-le-Rideau. Il avait un vague souvenir d'enfance de ce château, bien de Touraine, lui, et de son labyrinthe végétal. Au chauffeur, il ne donna qu'une indication. Pour franchir la Vienne, prenez le pont Henri IV, dont j'ai appris que c'était le plus long de France jusqu'à la construction du pont d'Avignon. Arrivé sur place, il apprit qu'en fait de labyrinthe, c'était à Villandry qu'il fallait se rendre. Mais Petit Jean ayant déjà réservé à Azay, il ne jugea pas utile de changer et s'installa dans la vieille demeure tourangelle de l'hôtel Le Grand Monarque, place de la République. Le soir, il flânait dans les rues piétonnes. S'il dînait légèrement, ses déjeuners étaient gastronomiques. Il se faisait conduire d'une table réputée à l'autre pour déguster tartes aux rayons et rillettes de Tours, andouillettes à la corde, gélines en croûte de sel, filets de carpe, sangliers tourangelles, tartines gratinées au Saint-Maur de Touraine, poires tapées, nougat de Tours. Repu et reposé, il rentra le 12 juin à Paris, sans que personne ne l'eût reconnu dans sa retraite. Sauf à considérer que ceux qui avaient deviné qui il était avaient compris qu'il ne fallait pas le perturber. Il était temps qu'il mît le cap sur la lagune. Un avion privé, celui de M. Pinault, l'emmena du Bourget jusqu'à l'aéroport Marco Polo, où une vedette rapide le déposa à l'hôtel d'Agnelli. Le bateau était un Riva Aqua 33 en acajou, chromes et céleri de cuir, le top du décruiseur, qui fut mis à sa disposition pour le séjour. Il avait 2 jours devant lui avant les représentations. La fenêtre de sa chambre faisait pratiquement face à la dogana. Il déambulait le matin dans les rues de la Sérénissime avec ravissement, profitait du Riva la nuit tombée pour vagabonder sur les canaux, et réservait ses après-midi au farniente sur la terrasse en avalant un onctueux bisserin, mariage de cappuccino et de chocolat chaud, du raisin prosecco, des beignets fritelles et des biscuits galani. Il goûtait ces mots italiens qui lui donnait envie d'interpréter un jour les 370 poèmes du Canzoniere de Pétrarque.